Eh bien, on va parler de patrimoine et des journées craponaises du patrimoine, puisqu'on a notre présence Gaby Ferrand. Gaby, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, ces journées du patrimoine, maintenant, ça a pris quand même une grosse importance. On voit un petit peu partout. Hein. On a reçu un peu la chaise Dieu, un peu à droite, un peu à gauche. Et Craponne, là, met un super coup de projecteur. Parce que les 19 et 20 septembre, il va se passer beaucoup de choses, hein, avec la Société d'Histoire notamment, puisque bon, on va commencer dans l'ordre, hein, visite guidée de la Maison de la Voûte. Voilà, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait.
Oui, alors, effectivement, bon, la Maison de la Voûte, c'est notre lieu habituel de travail. C'est une maison qui nous a été donnée par la famille Grenier et qui était appelée à s'écrouler parce qu'elle était vraiment au bord de l'effondrement. Et Madame Grenier m'a demandé si on voulait bien l'accepter parce que, en mémoire de son mari qui avait acheté cette maison pour en faire des appartements, et, elle aurait aimé qu'elle serve à un usage culturel. Donc on a relevé le défi, notre assemblée générale a accepté la donation et puis on a monté un projet pour réhabiliter ce bâtiment, le sauver d'abord, c'est chose faite, le restaurer pour en faire un lieu culturel, un lieu qui serve au pays de Craponne. Et donc notre projet, c'est d'en faire un centre de documentation avec la possibilité de consulter des ouvrages, de prendre des conseils, de participer à des réunions thématiques, par exemple. Et donc là, on est au tout début du projet, puisque la maison, elle sert déjà pour les permanences du samedi, tous les samedis matins, de 10h à midi. Et ça nous permet de rencontrer les gens, ça permet surtout aux gens de nous rencontrer. Et donc samedi, on va ouvrir les portes d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on va expliquer le bâtiment, expliquer le projet et permettre aux gens de donner leur avis et de soumettre des idées. On est ouvert, hein, on n'a pas la science infuse. Donc alors ça se passera en deux temps, samedi matin à partir de 10h jusqu'à midi, ce sera l'ouverture du bâtiment, donc les gens pourront venir le voir. Un petit peu plus que le samedi matin habituel. Et puis on expliquera aussi la présence de cette maison dans la rue des Voûtes, parce que c'est un quartier tout à fait particulier dont on se rend plus compte aujourd'hui, mais en réalité autrefois cette rue donnait un éclairage sur ce qu'était une ville close de murs, j'entends, et donc un espace assez restreint. Aujourd'hui, on a perdu un peu cette notion. Et il y avait au moins quatre voûtes, quatre maisons comme ça, qui enjambaient la rue à différentes époques. Hein, on n'a pas beaucoup de dates. La nôtre, elle date du XVIIe siècle, hein, avec cependant une base Renaissance. Hein. Donc les choses ont évolué. Et cette voûte, en la sauvant, on a sauvé un témoin de ces voûtes la rue aurait perdu tout son sens si on ne l'avait pas fait. Une petite précision, il y a sur les places inscrit rue de la voûte, et autrefois c'est la rue des voûtes, et puisqu'il y en avait plusieurs, et je trouve idiot d'avoir mis le singulier là, parce qu'on perd la notion. Alors nous on continue, on résiste, hein. On continue à utiliser le terme de rue des voûtes. Alors voilà pour le samedi matin. Et puis le samedi après-midi à 15h, alors on tente une chose, on tente une rencontre, hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement nous qui allons parler, mais c'est plutôt les gens qui voudront bien venir se joindre à nous pour discuter un petit peu du patrimoine, pour qu'ils nous disent un petit peu le sens qu'ils voient et comment ils voient son évolution, sa restauration. Et en même temps, on donnera des informations sur la gestion du patrimoine bâti, en particulier avec la Fondation du patrimoine, qui est un outil pour la restauration des maisons, mais les gens ne le savent pas toujours. Donc là, je suis le délégué de pays pour le secteur de Craponne, donc je donnerai des informations sur la manière d'utiliser la Fondation du patrimoine et ce qu'elle peut apporter. Puis je donnerai aussi quelques informations sur les autres aides dont peuvent bénéficier les propriétaires de maisons, parce que ce patrimoine, il faut l'entretenir, et c'est là que les questions doivent se poser. Il faut pas voir uniquement le côté utilitaire. Bien entendu que c'est le moteur, hein, d'un projet, mais il faut voir le plus que ça peut apporter, parce que le patrimoine, ben on le gère pas pour 10 ans, pour 20 ans, on le gère pour beaucoup plus longtemps. Donc c'est de tout ça qu'on va parler. Et bien sûr, on répondra à toutes les questions qui pourront nous être posées. Et si on a le temps, je pense que la météo devrait nous permettre de le faire. Donc on sortira un peu du bâtiment et puis on verra un peu le quartier. Puis on pourra discuter de différents cas de maisons. Donc toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur ce sujet peuvent venir nous rejoindre. Hein. On pourra en parler tranquillement. Voilà.
Alors, il va y avoir, on l'attend depuis longtemps, ça, cette nouvelle médiathèque, avec la visite commentée de Calmar de Montjoly. Là, c'est une grosse restauration aussi, hein.
Oui, alors ça, c'est autre chose. Bon, je rappellerai simplement que ce bâtiment avait été acquis par la mairie de Craponne du temps où tu étais maire adjoint, d'ailleurs. Et c'était à notre demande, hein, parce que notre projet, c'était d'y installer le musée de la dentelle de Craponne. Et ce musée, a un peu évolué. Le concept avait évolué vers une maison du patrimoine du pays de Craponne, dont la dentelle serait la partie majeure. Et puis les municipalités se sont succédées, et en fait après on n'a pas senti une volonté de faire un musée à Craponne. Je trouve c'est bien que le bâtiment soit restauré, ça je peux que m'en féliciter, mais je pense que en étant un petit peu plus ouvert, on aurait pu facilement faire un projet commun et pouvoir mettre les deux dans le bâtiment. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. C'est pas quand les choses sont faites, elles sont faites. Je voudrais dire simplement que nous, on a toujours ce projet de faire quelque chose pour le patrimoine de Craponne, et on le fait, on l'a entrepris, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que la maison de la voûte, qui est bien sûr beaucoup plus petite, nous permet quand même d'exposer un certain nombre de choses, et on l'a déjà fait dès l'an dernier, mais on le fait par morceaux, si je peux dire. C'est un musée en pointillé, disons, on traitera des sujets les uns après les autres. Et samedi, justement, il y aura dans la maison de la voûte une présentation en particulier de dentelle, hein. Oui. On a des vitrines, on a des équipements, donc les gens qui veulent déjà avoir un avant-goût pourront également venir nous voir dans ce but. Donc on présentera de la dentelle et un peu d'archéologie aussi, hein. Donc on va préparer ça toute cette semaine. Il y a encore un peu de travail, mais on va y arriver. Et donc, samedi, toutes les personnes qui veulent pourront venir admirer un peu ces quelques éléments de nos collections dentelles et archéologie, et puis peut-être quelques objets communs aussi, hein, du patrimoine traditionnel, je dirais.
Alors là, alors moi j'ai l'impression que c'est une première, ça, quand même. La visite guidée du donjon, moi je ne me rappelle pas que ça ait existé, si.
Oui.
Ah bon, d'accord.
Alors, ça existait il y a très longtemps, pas de manière régulière. Hein.
D'accord.
Mais le docteur Bachelier avait, il était à l'époque, c'est dans les années 40, hein, donc ouais. Ça remonte un petit
c'était
peu.
C'était le médecin.
voilà, c'est notre devancier. D'ailleurs, il a été le premier président d'honneur de notre association. Et c'est la première personne que je suis allé voir quand j'ai lancé la société d'histoire. Et le docteur Bachelier a conduit quelquefois des gens dans le donjon. Mais visite guidée, il faut relativiser un petit peu les choses. Hein. Il y a pas énormément à voir, étant donné que le donjon a une surface très petite. C'est quand même intéressant à voir. Moi, je m'y suis toujours un petit peu. J'ai traîné les pieds parce que souvent on nous le demande à cause du danger, parce que c'est pas facile.
C'est pas sécurisé.
Tu y es allé toi-même.
Moi j'ai vu en bas, mais je suis jamais monté dans
mais,
les.
Bon,
enfin c'est ancien.
Il y a eu quelques réparations aux marches de l'escalier, heureusement, parce qu'il fallait enjamber certaines marches qui n'existaient plus. C'est très poussiéreux, bien sûr, C'est à voir quand même pour les personnes qui le peuvent, mais je crois, Romain me disait la semaine dernière que les réservations étaient complètes. Hein, donc,
oui, mais c'est, vas-y, voilà, il y a une curiosité, hein, c'est
oui,
sûr.
Mais il faut y aller très peu, puis c'est dangereux. Les planchers sont percés d'un grand trou au milieu, et là, ça fait 22 mètres de haut quand même.
Oui, quand même.
Donc c'est pas...
Il y aurait une restauration à faire, là.
Oui. D'ailleurs, c'était un vœu pieux de notre ami commun, Gérard Pinel, qui souhaitait, il m'avait dit, mais moi, je peux restaurer l'escalier, tout ça. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu traîné les pieds, bon, je l'avoue. Mais en tout cas, ce bâtiment est intéressant à plus d'un titre. Il est intéressant, bon, historiquement, on le montre dans nos visites, mais du bas, je dirais. Mais il est intéressant sur le plan architectural, parce que c'est un élément du château de Craponne. C'est le seul élément qui nous reste.
Qui reste, oui.
Parce que le reste, c'est que des emplacements, mais il n'y a pas de structure encore en place. Mais ce donjon, d'ailleurs, qui n'était pas un donjon, c'est une tour-porte, hein, simplement. Il comprend deux salles, deux minuscules salles superposées qui ont servi de prison.
D'accord.
Notamment au marquis de Surville, quand il a été arrêté du côté de Tirange par les gendarmes de Craponne, et qu'il a séjourné une nuit dans nos murs avant d'être conduit au puits où il a été guillotiné. Donc, et le marquis de Surville était un poète. Il a écrit, il a écrit pas mal de poésie. Il y a d'ailleurs un recueil qui est encore, qui peut se trouver chez les bouquinistes. Et donc, au-dessus de ces salles, c'est que l'accès à l'horloge, en fait.
Oui.
Au sommet, mais c'est tout ce qu'il y a à voir. Mais bon, je pense que les visiteurs seront heureux après de dire je suis monté au donjon.
Alors voilà. Une légende quand même, Mandrin, une légende, est-ce qu'il y a été, est-ce qu'il y est passé, est-ce qu'il
ah
y a
non,
pas
non 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 Mandrin
c'est une légende,
mais Mandrin n'a rien à voir avec le donjon.
Oui.
Mandrin est simplement passé à Craponne,
voilà,
une nuit de d'août 1754, où il a déposé, comment, entre guillemets, son tabac de contrebande. Il a forcé la pauvre dame Boule, qui était l'épouse du buraliste, de prendre son paquet de tabac. Et alors, bien sûr, le mari n'étant pas là, en pleine nuit, hein,
oui.
Le mari n'étant pas là, il a fallu qu'elle aille voir les voisins, Calmar de Montjoly en particulier, et c'était Calmar-Dumont en réalité. Oui. Et puis Aurier-Dolia dans la maison qui est en face, un ancien hôtel particulier aussi. Donc ils lui ont prêté l'argent, on ne sait pas du tout si ça a été rendu ou pas. Je ne sais pas comment la suite s'est passée, il faudrait vraiment qu'on fasse des recherches en ce sens. Mais voilà, Mandrin, il est passé à Craponne comme il est passé à beaucoup d'endroits.
Oui.
Un an avant qu'il soit arrêté et roué vif, comme on le sait.
Alors, pour parler un petit peu quand même de ce que tu es en train de faire, toi, parce que toi, côté patrimoine, là, tu t'es beaucoup engagé hein, dans cette école des frères. J'ai vu que tu avais entrepris des travaux à côté encore. Tu continues toujours ton œuvre, on peut dire.
Alors, c'est complètement déconnecté de la société d'histoire. Hein.
C'est à oui, titre, non, mais c'est toi.
C'est à titre privé. Alors, c'est moi, c'est ma famille, en réalité.
C'est ta famille, oui.
Voilà, et donc, même moi, si je suis un petit peu le lien avec les entreprises, ben, c'est un projet qu'on monte à titre privé. Bon, pour reprendre un peu la genèse du projet, le bâtiment était le bâtiment de l'école des frères, comme tu l'as dit, qui a servi d'école jusque vers 1990-91, hein, non 89 ou 90. Bon, il faudrait le vérifier, et qui après a servi de salle de catéchisme, mais c'est un bâtiment qui était un peu démesuré pour cet usage. Et quand le curé de Craponne, le père Badon, m'avait demandé mon avis sur la question, et dans un premier temps je lui avais dit: écoutez, on peut essayer de faire quelque chose. Alors j'avais fait un dossier historique et dans le but de trouver un acquéreur, et moi-même j'avais contacté des gens qui me paraissait être intéressant pour reprendre un tel bâtiment, mais tous ont refusé devant l'importance du chantier. Oui, parce que c'est quand même un bâtiment qui est très grand, et puis qui a été très très abîmé par l'école. Donc si on voulait lui redonner son cachet, il fallait entreprendre de gros travaux. Donc tout le monde a capitulé, et puis un jour mon épouse me dit: mais nous on sera bientôt en retraite, est-ce que ça pourrait pas être notre projet de retraite? Alors bon, j'ai beaucoup hésité, puis finalement c'est elle qui l'a emporté. Les enfants ont donné leur accord aussi, donc nous avons pris le taureau par les cornes. On a essayé de voir d'abord ce que ça pourrait coûter, mais la première difficulté, on n'arrivait pas à avoir de devis. Le premier maçon que j'ai contacté, j'attends encore le devis. Donc parce que c'est compliqué à faire un devis pour des travaux pareils. Et puis alors j'ai un gros avantage, c'est que notre plus jeune fille est architecte du patrimoine. Et elle travaille chez un architecte en chef des monuments historiques, donc elle est rompue à ce type de chantier. Donc elle nous aide beaucoup, même si elle a très peu de temps et puis qu'elle n'est pas sur place. Ça nous fait quand même un conseil. Hier, on a fait le tour du bâtiment ensemble. Elle a donné son point de vue sur sur un tas de détails. Et donc c'est toujours un soutien et ça nous rassure, quoi, hein, pour nous engager là-dedans. Et puis on a rencontré quand même des entreprises qui sont tout à fait intéressantes de ce point de vue, parce que toutes les entreprises veulent pas entreprendre des choses pareilles. C'est tellement particulier et tellement important. Et alors je vais les citer parce que c'est vraiment important de leur donner un coup de chapeau. Ben, la maçonnerie, c'est l'entreprise Marin, hein, de Sauvé-Singe, et qui... Bon, Nicolas, qui a pris la succession de son père, est un membre de la société d'histoire depuis très longtemps, parce qu'il s'intéressait beaucoup. Et donc, on a commencé par lui demander à lui, ce qui est tout à fait normal. Et puis, il s'est équipé, il s'est même formé pour certains travaux, pour être sûr d'être bien dans le ton. Et puis, bon, pour la charpente, le premier chantier, c'est l'entreprise Dufour Dusson qui nous l'avait fait. Et puis maintenant, bon, on fait appel à l'entreprise Equi de Toury. Bon, je suis très content parce que ça se passe très très bien avec ces gens-là. Ils ont bien compris la spécificité de ces bâtiments. Et même souvent, ils viennent à la demande. Ils attendent pas que je leur dise quelque chose. Ils le voient eux-mêmes. Et là, ça fait plaisir parce qu'on sent qu'il y a une synergie, qu'on est bien dans le même esprit, quoi. Donc c'est, voilà, pour les autres entreprises, ça, c'est plus commun, quoi. C'est pas il y a moins de spécificité. Donc voilà sur le. Alors ce qu'on voudrait faire, parce que je sens venir ta question, qu'est-ce que tu vas en faire?
Voilà, ben oui, c'est sûr. Voilà. Tu m'as devancé là.
Alors nous, notre priorité, c'était de sauver le bâtiment. Je crois que maintenant c'est fait.
Ouais, surtout que, enfin, j'ai eu la chance de voir ta charpente, c'est exceptionnel.
Oui, mais tu reviendras voir.
Oui, je reviendrai voir.
Tu verras d'autres choses.
Ça a encore changé. Ouais.
Mais on l'ouvrira pour une journée du patrimoine quand le projet sera plus avancé. Et donc ce que l'on veut pour l'instant, parce qu'on a envisagé toutes sortes de choses, mais on est un petit peu là, on a fait un peu machine arrière parce que ben on n'a pas des moyens, nous.
Ah ben,
heureusement qu'on a vendu une maison en région parisienne, mais ça suffira pas.
Oui, c'est sûr.
Ça suffira pas, et donc on y met tout notre, non seulement tout notre cœur, mais tous nos moyens. Et après, je sais pas comment on finira, mais ça fait rien, on s'arrête pas en chemin, donc il faut. Mais là, c'est vraiment, je le dis pour ceux à qui ça pourrait faire peur, c'est un bâtiment exceptionnel, qui a une surface exceptionnelle, pour restaurer une petite maison, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Oui. Voilà, alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà une toute petite partie, en logement, une toute petite partie, mais familiale. On reste dans le D'accord. domaine familial. Et puis, on va restaurer une salle pour pouvoir les anciennes cuisines qui étaient le réfectoire de l'école.
Ouais, hein, qui était
après.
Très grande, d'ailleurs.
Donc ça nous fait une grande pièce qui pourra... on a retrouvé les éléments de la cheminée, on restitue la cheminée, on va faire de cette pièce une pièce d'accueil qui pourra servir à différentes occasions.
D'accord.
Mais on ne veut pas en faire une entreprise d'accueil, ça c'est pas.
D'accord.
C'est pas. Et puis après, on restaurera les salles les unes après les autres au fur et à mesure de nos moyens. Voilà.
Ben, c'est un bel engagement pour ta retraite. Hein. On espère que
oui.
Tu vas vieillir longtemps.
Ah ben, je te remercie de ton
souhait. Non, mais c'est vrai, ben, je crois qu'il y a plein de gens qui ont des projets. Hein, mais ça, c'est quand même un gros projet. Côté, est-ce que tu... Enfin, on ne va pas parler de sponsor, mais est-ce que tu as des gens qui peuvent être intéressés, qui disent, tiens, on peut vous aider, on peut vous financer un petit peu?
Ah ben, ça nous ferait du bien.
Oui, ça ferait du bien.
Ça nous ferait du bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas sollicité des personnes privées, ni même des entreprises. Les entreprises travaillent, mais dans le cadre de leur activité. Par contre, sur le plan du financement, le bâtiment n'étant pas protégé au titre des monuments historiques, il aurait pu l'être, mais bon, il n'est pas. Et maintenant, la tendance n'est pas à multiplier les protections. Donc, on n'a pas d'aide de l'État à ce titre-là. Le département a un programme donc qui s'appelle le PRNP, patrimoine rural non protégé, qui permet d'obtenir une aide qui est au maximum 15% des travaux extérieurs, enfin ce qui est visible de la voie publique.
D'accord.
15% c'est ça peut être pas mal, sauf qu'il y a un plafonnement. Donc ça va pas, ça va pas très très loin. Ensuite, on a la Fondation du patrimoine. Alors la Fondation du patrimoine, c'est une aide minime. Hein. Pour nous, ça sera 1%. Hein.
D'accord. Oui.
Donc ça va pas loin, sauf que ça permet, par le label de la Fondation, alors pour les gens qui veulent avoir des détails, samedi, je pourrais leur en donner davantage. On peut défiscaliser. Et au titre de la défiscalisation, c'est vraiment très intéressant.
D'accord.
On défiscalise à 50% du montant des travaux. Et la fondation, c'est intéressant. Mais il faut obtenir le label, c'est-à-dire qu'il faut, il faut le faire dans un cadre précis, en respectant des normes. Et c'est soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et puis il peut y avoir d'autres aides, je dirais accessoires, comme à Craponne. Nous, on se situe pas dans le secteur le plus important, mais dans le secteur secondaire pour l'aide à la façade.
D'accord.
C'est-à-dire que on a demandé donc une aide à la façade dans le secteur où on est. Elle est plafonnée à 1 500 euros. Donc
ouais,
ça va pas loin du tout, quoi. Par rapport, mais c'est toujours ça, quoi. Si ça paye quelques travaux ou quelques entreprises secondaires, ben c'est toujours ça, quoi.
Alors on entend beaucoup parler maintenant de cagnotte en ligne.
Oui, je vois pas trop ce que tu veux dire.
Non, mais ben, tu sais, il y a des gens qui...
C'est plutôt les organismes. Ah oui, je vois quand même. Non, je suis pas vraiment renseigné là-dessus.
Oui.
Par contre, il y a des organismes comme qui sont un peu inspirés de la Fondation du patrimoine pour collecter des fonds.
Voilà.
Des fonds pour un usage particulier. Et alors il y a D'Artagnan, par exemple. C'est un site qui est bien connu. Ça permet de collecter des fonds pour un usage très particulier. Bon, nous, on fait pas appel à ça. Maintenant, bon, ça peut toujours s'envisager parce qu'on aura d'autres,
oui,
d'autres étapes à parcourir. Mais ça, on verra après, quoi.
Ok, bah écoute, Gabriel, merci d'avoir été avec nous. Hein. La Société d'Histoire fait tout son possible pour ce patrimoine. On voit quand même que ça commence à prendre de l'importance, parce qu'il y a plein... Il y a le petit patrimoine, on a parlé un peu du gros patrimoine, mais il y a tout le petit patrimoine. Puis on voit que un peu à droite à gauche, ça se restaure, les lavoirs, les maisons des Béates, les croix. Les gens... alors je ne sais pas si c'est un changement de direction dans le tourisme, mais les gens s'intéressent à ça, parce que des fois, c'est vraiment, on va au bout du monde pour voir des choses, mais on ne se rend pas compte qu'à côté de chez nous, on en a des très belles.
Oui. Les gens s'y intéressent depuis longtemps, en fait.
Mais peut-être de plus en plus. Souvent.
Mais ce qu'il faut, là, il faut leur montrer le chemin un petit peu. Alors, les associations sont là pour ça. Nous, modestement, on le fait à notre niveau. Mais il y a des associations nationales qui font un gros travail, comme Maison Paysanne de France, comme Vieille Maison Française, la Demeure Historique, la Patrimoine Environnement. Il y a plein de grandes associations. La Société d'Histoire est d'ailleurs membre de la plupart, pour sensibiliser la population, et puis quand on le peut, comme à la Maison de la Voûte, eh bien pour montrer ce qu'on peut faire, quoi, parce qu'on le fait au départ sans moyens, et puis progressivement on arrive à faire certaines réalisations. Mais il y a tout ce petit patrimoine qui bien souvent fait partie des biens collectifs. Donc c'est pas du patrimoine privé, les maisons de Béate, les maisons, les les croix, les abreuvoirs, les lavoirs, c'est souvent des biens de section, oui, ou des biens communaux. Et là, les élus ont été longs à s'y mettre. Certains l'ont fait assez tôt. Et là, je voudrais à ce sujet rendre un hommage à notre ami Régis Forissier, qui vient de nous quitter, et qui, lui, très tôt, un jour, il m'a demandé pour le patrimoine de Chambly ce que j'en pensais. Alors, je lui ai dit, c'est formidable, il faut commencer par... Il me dit, non, moi, je veux tout faire d'un coup. Alors, je lui ai dit, raison de plus, c'est très bien. Et il a restauré l'ensemble du petit patrimoine de la commune de Chambly. Et il m'a dit, j'ai plus de subventions en procédant comme ça que par petits bouts.
D'accord.
Donc, il a montré un peu la voie dans ce domaine. Et, en ce moment, les communes essaient de valoriser leur patrimoine. Mais je dois dire que... Il faut encore accentuer la sensibilisation, et je serais tenté de dire des élus, parce que les élus ont un rôle important, parce que c'est eux qui montrent le chemin. Donc si eux le font pas, il y a quelque chose qui manque. Alors, je suis heureux de voir quand il y a des opérations qui se mènent et qui se mènent bien. C'est toujours intéressant de les saluer. Alors nous, on s'associe à tout ça, quoi. On peut rien faire tout seul. En matière de patrimoine, il faut pas hésiter à se serrer les coudes et à mettre tout le monde. Même, on voit des opérations qui se mènent de façon très intéressante entre voisins. Alors souvent, ça commence par un mur. Et là, en termes de murs, notre association, depuis 2011, crée des ateliers, mène des ateliers de sensibilisation et d'initiation à la pierre sèche. Donc ça nous amène à un autre degré. Et ces murets de pierre sèche, ils rythment les paysages. Quand vous avez une vue sur un ensemble d'une bonne partie du territoire, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque les, bien sûr. Chez nous, il n'y en a pas trop. Dans certaines régions, c'est des régions de bocage, il y en a davantage. Mais on voit toutes ces petites bosses, parce que souvent, les murets de pierre sèche sont devenus des petites bosses. Mais si on gratte un peu, ben on s'aperçoit que le mur, il est dessous et que ces pierres ne demandent qu'à être remontées. Donc, c'est ça notre objectif. Alors on en parlera samedi. Et ça, c'est le petit patrimoine rural. Alors, il appartient à qui ? Alors le patrimoine, il appartient au propriétaire, certes, mais l'aspect patrimonial, il appartient à tout le monde.
Ouais.
Je citerai Victor Hugo qui disait « La maison n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui la regarde. » Et c'est vrai, quand quelqu'un... J'emploie le terme, saccage une façade, une maison, il saccage le paysage.
Oui.
Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont mis des normes pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi.
Alors juste pour terminer, il y a un exemple à Maru, puisque le lavoir va être restauré, ce qui est une bonne chose, parce que c'était un joli lavoir en plus. Moi j'en veux un petit peu au maire de Luriec, puisque je suis né à Luriec, et qui a démonté ce lavoir qui était magnifique.
Alors, pas celui de Maru, hein.
Non, pas celui de Maru, celui de Luriec. Et puis également, il avait fait démolir la gare. Alors, je l'en remets un petit peu, là, parce que je trouve que c'était... Oui. Nous, le lavoir, on s'y amusait gosse, et il était sympa. Donc, voilà. Oui. Il y a des choses où on ne comprend pas bien.
Oui. Alors, ce que tu dis là, c'est important. Ça s'est passé il y a combien d'années ?
Une vingtaine d'années.
Et oui, c'est au moment où la voie ferrée a été
supprimée. Arrêté,
gros, alors voilà, la voie ferrée, c'était un élément du patrimoine qui avait coûté plus que de l'argent. On n'imagine pas le nombre de personnes qui ont travaillé, qui ont dépensé leur sueur pour construire. Rien que le viaduc de Pontempéra, c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Et ça, c'est ça l'esprit du patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on reçoit de nos anciens, et c'est ce qu'on doit retransmettre.
Ouais.
Mais retransmettre, valoriser. Parce qu'un patrimoine qui ne s'entretient pas, il tombe en décrépitude. Donc, Et là, on a tous des devoirs. Et le patrimoine, c'est nos racines, c'est notre mémoire.
Exactement.
Et pourquoi, tu disais tout à l'heure que les gens s'y intéressaient de plus en plus. Mais c'est pas un hasard, c'est parce que dans les familles, de plus en plus de gens ont été obligés de s'expatrier. Bon, ça a été mon cas à un moment. Et quand on vit à l'extérieur, on a une autre notion du patrimoine, parce qu'on recherche ses racines, on a besoin de racines, on a besoin. C'est pour ça que de vouloir moderniser à tout craint, eh bien, on ne fait que détruire. Parce que la modernisation, elle obéit à des modes. Et une mode, c'est fait pour passer.
Exactement.
Et être remplacé par une autre mode. Oui. Donc vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de suivi. Alors qu'un patrimoine, le patrimoine, il est toujours là. Alors on le valorise, on le réhabilite, on lui donne un nouveau sens. Mais le patrimoine, eh bien, il doit vivre. Un patrimoine qui vit pas. Et nous, c'est pas du tout notre esprit de sauver pour sauver. Notre esprit, c'est de sauver pour vivre, pour que ça vive, pour que ça offre des possibilités, que ça offre un potentiel. À propos de potentiel, Craponne dispose actuellement dans son centre ancien d'un potentiel extraordinaire, que tous les que ce soit des journalistes, que ce soit des spécialistes, quand ils débarquent, ils disent, mais vous avez un potentiel fabuleux, il faut le valoriser, il faut le valoriser, pas le détruire.
Eh bien, on va finir sur cette phrase, donc rendez-vous samedi et dimanche, hein, 19 et 20 septembre, là, le patrimoine, vous allez découvrir plein de choses, pour ceux qui nous rejoignent parfois à résidence secondaire, puis même pour des craponnais, hein, qui parfois connaissent pas tout, franchement, donc là, vous aurez la possibilité, avec la Société d'Histoire, de découvrir tout cela. Gabi, merci, et puis bon courage, hein, pour ton projet, puis pour tous tes autres projets. Hein. Parce que faut des gens comme toi, hein. C'est vrai que c'est pas facile.
Non, non,
qui s'engagent.
Si avec moi, ça suffirait pas.
Toi, non, mais enfin, qui s'engage, tu donnes la voix. Ça peut dire qu'à d'autres, pourquoi nous on peut pas le faire.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Merci.
Merci Jean-Pierre de ton accueil.
Ben non, moi c'est normal. Hein. Les gens intéressants, on aime toujours les avoir.